Chapitre 24. Alors que le gros de l'armée ennemie s'engageait dans les montagnes, Nathan et son groupe œuvraient sur leur plan relatif à la prairie semée de violettes tueuses. Les éclaireurs de Zimmer surveillaient la progression des troupes qui se dirigeaient vers la prairie. Mutines comme d'habitude, Thorn et Lies passaient le temps en massacrant les traînards adverses. Cerise sur le gâteau, ça forçait des patrouilles à perdre du temps à les traquer. En attendant de pouvoir déclencher le piège, Nathan sondait l'étendue de fleurs empoisonnées et la ligne des arbres au-delà de la prairie. Les violettes étaient magnifiques, leur couleur aussi intense que le silence, qu'on pouvait qualifier de mort sans se tromper. Au-delà, une forêt couvrait un terrain en pente plutôt rude. Le vieux sorcier se souvint du pauvre Bannon. Naïf comme un nouveau-né, lorsqu'il avait offert un bouquet de violettes tueuses à Nietzsche avec l'espoir de la séduire. Très calme, la magicienne avait décrit en détail les affres d'un décès provoqué par les feuilles, la tige ou les pétales de ces merveilleuses fleurettes. Une simple goutte de sève pouvait suffire à tuer un homme. Affolé, Bannon avait jeté les fleurs, remerciant le ciel de ne pas avoir été en contact avec leur sève. Le jeune idiot avait cueilli une demi-douzaine de violettes. Dans cette prairie, il y en avait des milliers.
« Ça fera un massacre, très cher, » dit Nathan, « si on réussit à attirer les hommes d'Outros. »
D'après ce qu'on dit, c'est une fin atroce.
La pire qui soit, oui. Et j'en connais plus d'une. Ces soudards ne méritent rien d'autre,
marmonna Ren, le regard toujours voilé par la tristesse.
Je veux qu'ils crèvent tous en appelant leur mère. Si Outros et ses magiciennes font partie du lot, ce sera encore mieux. Ces chiennes ont tué Malani.
Zimmer approcha le front plissé.
Outros et les deux femmes sont parties dans une autre direction. Selon mes éclaireurs, le premier commandant Enoch dirige les opérations. Mes gars ont appris ça grâce aux Morassites qui adorent interroger les traînards qu'elles capturent.
L'armée émergera de la forêt comme nous, dit Nathan. Pour qu'elle se jette tête baissée dans la prairie, il faudrait inciter l'avant-garde à nous poursuivre. Une petite provocation, une traque, et tous les autres imbéciles suivront. En piétinant les fleurs, ils s'aspergeront de sève et ils crèveront.
« Nous aussi ?»
fit remarquer Rendel.
« Si on leur sert d'appât, comment éviter de mourir aussi ?»
Bien qu'il n'eût pas le don, l'esclave affranchi avait fait tout son possible pour aider les résistants. Par exemple, il était incroyablement doué pour dénicher des racines comestibles et des champignons. Chaque soir, il confectionnait un rata plus qu'acceptable avec tout ce qui lui tombait sous la main.
« Si nous atteignons la forêt, »
dit Auron en approchant, à l'autre bout.
« Nous tomberons sur un cours d'eau. Là, on se débarrassera du poison en se lavant.
Cette substance toxique traverse la peau, on serait mort avant d'y être.
Dans ce cas, »
intervint Olga,
« nous ne devrons pas avoir un pouce carré de peau exposée. Avec la soie spéciale que j'ai emportée, on se couvrira les mains, le visage et toutes les zones nues des membres. C'est un matériau très fin mais imperméable. »
La jolie Perry parut plus que dubitative, une moue altérant ses traits d'habitude parfaits.
Pourquoi ne pas contourner les fleurs, tout simplement? L'armée marche dans cette direction, donc elle traversera sûrement la prairie, et il y aura des morts.
Les soudards mangeront peut-être les fleurs,
dit le sorcier Léo.
Selon les éclaireurs, ils dévorent de l'herbe et des feuilles, comme un troupeau de Yaxen.
Il tapota son ventre plat.
Je vendrais ma mère pour un bon steak de Yaxen. Quand je dirigeais les abattoirs, il me suffisait de claquer des doigts pour en avoir un.
Les soldats d'Aran, l'estomac dans les talons, marmonnèrent qu'ils mangeraient bien aussi.
Certains de ces hommes connaissent peut-être les violettes tueuses, dit Verna. Il faut les inciter à charger sans réfléchir. S'ils nous poursuivent, ils tomberont dans le panneau.
Ils nous haïssent, approuva Nathan. Et j'avoue qu'ils ont toutes les raisons de vouloir se venger de nous. On devra se montrer, puis foncer et les conduire au milieu des fleurs. Nous serons protégés, mais pas eux. Le reste me semble aller de soi.
Enragés par les embuscades incessantes, les soudards d'Outros ne résisteraient pas à l'envie de tailler en pièces leurs tourmenteurs. Dans cet état d'esprit, ils fonceraient sans réfléchir. En harcelant pour une fois l'avant-garde, Thorn et Lies amorceraient la poursuite. Mais avec une telle surface de peau nue, elles ne devraient à aucun prix s'engager dans la prairie. Dès que l'ennemi aurait repéré Nathan et ses partisans, elles s'enfonceraient dans la forêt et ne se montreraient plus. Les soldats de Zimmer n'auraient aucun rôle à jouer au début du guet-apens. Après avoir contourné la forêt, ils atteindraient Nathan et son groupe près du cours d'eau. Là, ils aideraient à éliminer d'éventuels ennemis ayant survécu aux violettes. Déjà protégé par sa tunique de sorcier qui couvrait ses autres vêtements, Nathan s'enveloppa le visage avec la soie spéciale, en laissant une fente pour les yeux, évidemment. Puis il noua ses longs cheveux en queue de cheval et se protégea les mains. Verna, Ren, Auron, Olgia et 6 érudits de surplomb du monde s'équipèrent de la même façon. De quoi épuiser les réserves de soie. L'avant-garde adverse ne devant pas être loin, Thorn et Liès s'éloignèrent, pressés d'aller lui chercher des noises. Tout le monde était prêt. Dubitatif, Nathan balaya du regard ses compagnons.
« Nous ressemblons à des cadavres dans leur linceul avant l'inhumation dans les catacombes. »«
Nous serons un cauchemar pour ces chiens !»
s'écria Ren. Il tira sur ses protections pour qu'elles fassent bien la jonction avec les manches de sa tunique marron. Un peu plus tard, au terme d'une attente tendue, les cris retentirent enfin, suivis de cliquetis d'acier et de bruits de pas précipités. Lancés à toute vitesse, Thorn et Liès déboulèrent de la forêt, un sourire triomphant sur les lèvres. Dès qu'elles virent Nathan et son groupe prêts pour la phase suivante, elles échangèrent un regard.
« On comparera nos chiffres plus tard », lança Thorn à sa collègue.
Sur ces mots, les deux femmes s'enfoncèrent dans la forêt et disparurent. À l'allure où elles allaient, elles auraient au fait de contourner la prairie.
« À nous de jouer !»
lança Nathan. Avec son don, il invoqua un vent puissant qui fit trembler toutes les branches. Campé à ses côtés, Verna lança des éclairs en direction des arbres, histoire d'éblouir les soldats qui se déversaient à présent de la forêt. Unissant leurs forces, Auron, Léo, Perry et Olgia générèrent un orage dont la foudre carbonisa les 20 premiers soudards, persuadés jusque-là de traquer deux simples femmes.
« Ils doivent croire que nous sommes coincés !» dit Auron, « et qu'il s'agit d'un baroud d'honneur. Un animal acculé n'est jamais plus dangereux !»
approuva Ren. Alors que des centaines de soldats déboulaient de la forêt, Nathan invoqua une boule de feu de sorcier et la lança latéralement. Cette faux magique fit un massacre, des dizaines d'hommes tombant comme des quilles avant de se consumer. Rien qui fût de nature à ralentir les soudards qui les suivaient, assoiffés de sang comme une meute de loups. Dès qu'ils virent les défenseurs, la prairie dans le dos, ils hurlèrent à la façon de ces fauves. Sous son masque de soie, Nathan sourit, puis il lança
« Attrapez-nous si vous pouvez !»
Des jours durant, les résistants d'Ildakar avaient aiguillonné l'armée adverse, tuant les retardataires et les éclaireurs. Même si ces pertes étaient insignifiantes pour une telle horde, la colère et la peur rongeaient le cœur des soldats d'Outros. Enfin, face à leurs bourreaux, ils chargèrent comme des taureaux furieux. Ren invoqua à son tour une boule de feu.
« Pour eux !» marmonna-t-il sous la soie. « C'est une fin trop douce, mais tant qu'ils crèvent, ça me convient !»
Il propulsa sa boule, qui se divisa en une multitude de lances embrasées. Chacune percuta le casque d'un soldat et lui fit exploser la tête. Ren eut un rire rageur. Son chagrin, après la mort de Lani, se transformait en une arme de destruction sélective. Les érudits générèrent des bourrasques et des secousses telluriques qui eurent raison des premiers rangs adverses. Sans broncher, les suivants piétinèrent leurs camarades et continuèrent leur chemin. Contre une telle déferlante, les carottes risquaient d'être vite cuites.
« On décroche !»
cria Nathan.
« Foncez !»
Tirant une dernière fois sur ses protections, il fit volte-face et s'enfonça dans un océan de violettes tueuses. Les défenseurs reculèrent vers la prairie, puis ils prirent la tangente. Alors que Verna collait au talon de Nathan, Léo, Perry, Auron et Olgia, pour couvrir leur fuite et celle des érudits, lancèrent une dernière vague d'éclairs et de bourrasques. Puis, ils suivirent le mouvement en essayant de ne pas penser aux végétaux qu'ils écrasaient sous leurs semelles. Ren s'attarda, tuant avec tous les sortilèges de son répertoire. Quand les soldats furent presque sur lui, il consentit à tourner les talons. La prairie semblait s'étendre à l'infini, une mer moutonnante semée de plantes meurtrières trop joliment colorées pour être honnêtes. Peu habitué à ce genre d'exercice, Verna trébucha et faillit s'étaler. La rattrapant par le col, Nathan la retint et lui laissa le court répit nécessaire pour se remettre sur ses pieds. Certains d'avoir leurs ennemis à leur merci. Les soldats d'Outros rugissaient déjà de triomphe. Épée levée, ils gagnaient du terrain et se préparaient pour la curée. Sauf ceux qui s'arrêtaient, se penchaient et cueillaient des fleurs pour les dévorer. Nathan accéléra sa course en direction de la forêt. D'un coup d'œil par-dessus son épaule, il vit que le piège fonctionnait au-delà de leurs espérances. Cela dit, la soie qui protégeait ses mains, ses bottes et l'ourlet de sa tunique devait être couverte de poison. S'il arrivait jusque-là, il faudrait nettoyer tout ça dans le cours d'eau. Verna et lui atteignirent le bout de la prairie en même temps. S'engouffrant entre les arbres, ils sautèrent par-dessus des rochers, gravirent une butte et aperçurent enfin le ruisseau Salvateur. Avant de foncer, Nathan regarda derrière lui. Dans la prairie, les premiers soldats commençaient à tituber avant de s'écrouler. La plupart, estima-t-il, ne dépasseraient pas la moitié du champ mortel. D'autres continueraient, mais allaient voir ralentir, ils n'arriveraient pas jusqu'au bout non plus. Remarquant que des dizaines d'hommes tombaient sans raison, ceux qui les suivaient hésitèrent, ceux qui étaient encore plus loin s'immobilisèrent avant d'être entrés dans la prairie. Quelques soudards, des colosses pour l'essentiel, parvinrent à atteindre la forêt. Pour y vomir tripes et boyaux, puis se tordre de douleur sur le sol en essayant de s'arracher les yeux. Nathan les regarda mourir avec une étrange liesse.
« Ces fleurs vous feront de très belles couronnes funéraires !»
lâcha-t-il.
« Nathan !» cria Verna. « Tu n'es pas au spectacle. Nous devons atteindre le cours d'eau et nous laver !»
Sans attendre, la dame abbesse suivit son propre conseil et courut rejoindre le général Zimmer et ses hommes. Armes au poing, prêts à sauter en selle, ils réserveraient un accueil musclé à tout ennemi qui se montrerait. Rejoint par ses autres compagnons, Nathan se remit à courir, glissa sur des feuilles et des épines de pin, mais réussit à conserver son équilibre. Jusqu'à ce qu'il se jette à plat ventre dans l'eau glacée et commence à retirer les protections poisseuses de sève. Si imperméable que fût la soie, elle devait avoir ses limites. Après avoir immergé ses longs cheveux blancs, le vieil homme retira sa tunique et la confia au courant qui l'entraîna aussitôt. Un vêtement infecté qu'il n'aurait remis pour rien au monde. Verna, Auron, Olga et les érudits firent aussi leur toilette, se débarrassant de leur première couche de vêtements. Après avoir recraché de l'eau, Nathan tourna la tête et vit Ren approcher du cours d'eau d'un pas hésitant. L'air perdu, il semblait avoir du mal à tenir debout.
« Jette-toi dans l'eau !» lui cria Nathan. « Élimine le poison !»
Ren baissa les yeux sur ses mains. La soie qui aurait dû les protéger s'était dénouée et pendait à ses poignets. Les paumes, les doigts, les dos, tout était couvert de pustules grisâtres. Les avant-bras enflaient déjà, touchés par la toxine.
« Oh non !»
souffla le sorcier d'Ildakar. Très déprimés, les résistants emportèrent le cadavre de Ren. Le laisser dans une tombe anonyme au milieu d'une forêt déserte aurait été une injure. Leur victoire gâchée par ce drame, Nathan et ses compagnons s'éloignèrent de la prairie en silence. Derrière eux, des centaines, voire des milliers de soudards avaient succombé au poison. Les survivants, encore incroyablement nombreux, attendaient le retour des éclaireurs chargés par Enoch de trouver un moyen de contourner la prairie. Après un long moment, la horde reprit son chemin vers les pics rocheux qui menaient à Colladère. Quand Nathan et son groupe eurent pris assez d'avance sur les soudards, ils cherchèrent un site protégé dans les hauteurs, puis prirent le temps d'ériger un bûcher funéraire. Pendant la crémation, Liès et Thorne patrouillèrent afin de repérer une éventuelle attaque surprise. Le capitaine Trevor et ses hommes, escorte de Ren depuis son départ d'Ildakar, eurent du mal à encaisser la perte. En silence, ils regardèrent les flammes purifier la dépouille du malheureux sorcier. Palpant la cicatrice sur sa poitrine, Nathan eut une poussée de colère. Celle d'Ivan, l'ancien propriétaire de son cœur. Mais il l'étouffa et se concentra sur sa tristesse. Même s'il l'avait peu connu, Ren était devenu un ami.